La fauconnerie, peut-être dépasser la meute, le bon seigneur, à force d'argent, s'était procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfaux d'Allemagne et des faucons pèlerins capturés sur les falaises, au bord des mers froides, en de lointains pays. Il logeait dans un hangar couvert de chaume et, attaché par un rang de taille sur le perchoir, avait devant eux une motte de gazon où de temps à autre on les posait afin de les dégourdir. Des bourses, des hameçons, des chausse-trappes, toutes sortes d'engins furent confectionnés. Souvent, on menait dans la campagne des chiens d'oiselle qui tombaient bien vite en arrêt. Alors des piqueurs s'avancent pas à pas, étendaient avec précaution sur leur corps impassible un immense filet. Un commandement les faisait aboyer, des cailles s'envolaient, et les dames des alentours conviaient à leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, pour débûcher les lièvres, on battait du tambour, des renards tombaient dans des fosses, ou bien un ressort, se débandant, attrapait un loup par le pied. Mais Julien méprisa ses commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaré de city, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache de grelots d'or tremblait à ses pieds bleus. Et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup. La bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche et l'on voyait deux taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre en déchirant quelques oiseaux et revenait se poser sur le gantelet, les deux ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ses chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois, et, quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement. Puis se délectait à la furie des matins, qui le dévorait, coupé en pièces sur sa peau fumante. Les jours de brume, il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres et les albrans. Trois écuyers des lobes l'attendaient au bas du perron et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages, s'il était fatigué, se reposait sous un chêne. Et il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux, et sentant l'odeur des bêtes farouches. Il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec les pieux, et même une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre les loups qui rongeaient des cadavres au pied d'un gibet. Un matin d'hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l'épaule et un trousseau de flèches à l'arçon de la selle. Son genêt danois, suivi de deux bassets, en marchant d'un pas égal, faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau, une bise violente soufflait. Un côté de l'horizon s'éclaircit et dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillant au bord de leur terrier. Les deux bassets tout de suite se précipitèrent sur eux et, ça et là, vivement, leur brisaient l'échine. Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d'une branche, un coq de bruyère, engourdi par le froid, dormait la tête sous l'aile. Julien, d'un revers d'épée, lui faucha les deux pattes et, sans le ramasser, continua sa route. 3 heures après, il se trouva sur la pointe d'une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. Devant lui, un rocher pareil à un long mur s'abaissait, en surplombant un précipice et, à l'extrémité, deux boucs sauvages regardaient l'abîme. Comme il n'avait pas de flèche, car son cheval était resté en arrière, il imagina de descendre jusqu'à eux. À demi courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs et lui enfonça un poignard dans les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s'élança pour le frapper et en glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l'autre, la face au-dessus de l'abîme et les deux bras écartés. Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues, volant très bas, de temps à autre, passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet et n'en manqua pas une.